9h-11h, Wendy Bouchard.
Dans Studio Un Autre, nous parlons à la France entière. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Europe 1 pour faire le tour de la question. Rebonjour ma chère Julie.
Bonjour Wendy.
Après nous être interrogés sur le profil de ceux qu'on appelle riches en France, cette semaine on pose cette question, comment vivent les retraités? Ils étaient des milliers, de nouveau mardi à manifester dans plusieurs villes de France, de Nice à La Rochelle, de Pau à Paris, pressurés, fatigués les retraités qui défendent leur pouvoir d'achat. Une colère qui persiste malgré les annonces d'Emmanuel Macron sur la CSG. On vous demande si les retraités sont systématiquement les grands oubliés du pouvoir. Vous répondez oui sur la page Facebook à 76% et on vous donnera les détails de cette réflexion. Et puis à 10h, on va faire un petit peu d'histoire avec un passionné du Premier et du Second Empire. Comment les deux Napoléons, Napoléon Ier et Napoléon III, ont-ils organisé Paris en particulier, mais aussi une partie de la France? Quelles empreintes? Eh bien, les politiques s'inspirent-ils encore de ces régimes et peut-on être fier de cet héritage? C'est l'historien Dimitri Casali qui nous éclaire. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, vous réagissez. Dès maintenant, le standard vous est ouvert sur les retraites, Julie.
A tout de suite, c'est le 39-21.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Une vie à travailler, une vie à cotiser et maintenant racketter sur ces pancartes une fois de plus mardi dans une dizaine de villes de France. Les messages rappelaient la réalité des retraités et le malaise déjà dépeint au mois de mars et au mois de juin cette année et puis en septembre de l'année 2017. Bonjour Pierre Madec.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques à l'OFCE, spécialiste des prévisions économiques, du marché du travail et des retraités en particulier. Serge Guérin, sociologue et spécialiste, va nous rejoindre dans un instant. Je vais vous donner la parole tout de suite Pierre Madec, mais je voudrais qu'on écoute Bernard qui nous rejoint, qui est avec nous depuis Saint-Avold. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Bonjour Bernard, vous êtes retraité depuis 6 ans, retraité du BTP et des transports. Je voudrais que vous nous donniez, s'il vous plaît, votre niveau de retraite et la manière dont vous vivez aujourd'hui avec ce niveau de retraite, Bernard.
Alors, je suis parti à la retraite avec ce que je pensais être une retraite décente. Et en 6 ans, ma retraite a tellement dégringolé grâce aux taxes et aux impôts. Il me reste de quoi vivre, mais il ne me reste plus que 1 300 euros.
1 300 euros par mois.
Pour vivre, hein, c'est-à-dire payer mon loyer, mon eau, mon gaz, mon électricité, mes assurances, enfin tout le tralala, quoi. Et moi, j'arrive à vivre avec ça. Mais j'ai 7 enfants et 11 petits-enfants. Je suis petit, je leur avais dit qu'ils pouvaient compter sur moi. Et aujourd'hui, il faut qu'ils s'adressent aux assurances sociales.
Oui. Vous tombez, cela dit, sous le coup, cher Bernard, des annonces d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que pour vous, la hausse de la CSG sera annulée. Alors, je pense que vous avez bien suivi ce dossier. On a appris que cette hausse serait annulée avec une application au plus tard au 1er juillet, c'est-à-dire que le remboursement vous sera rétroactif. Comment vous réagissez à ces nouvelles mesures?
C'est de la poudre de pain, parce que ce qu'ils m'ont enlevé personnellement, ça va représenter quoi? Une trentaine d'euros. C'est pas une augmentation. En 6 ans, on a eu 0,8% d'augmentation en 6 ans.
Oui. On vous entend très mal, Bernard. Je vais essayer de vous reprendre dans un petit instant, si vous pouvez bouger d'un petit point à un autre. Vous qui êtes à Saint-Avold aujourd'hui à 9h04, et vous qui faites partie des 15 millions de retraités français. Bonjour Serge Guérin. Merci de nous rejoindre en qualité de sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la séniorisation de la société, comme on en parle. Pierre Madec, Serge Guérin sont avec nous, avec des retraités remontés, comme Bernard, après les dernières précisions du gouvernement sur l'annulation de la hausse de la CSG. Une fois de plus, ils ont le sentiment de se faire berner. C'est ce qu'on entend avec les difficultés du quotidien, Serge Guérin.
Oui, il y a un double élément. Il y a à la fois les réalités objectives, je dirais l'argent, c'est-à-dire qui part, par exemple, avec la CSG, avec surtout la non-revalorisation. De fait, les retraites étaient avant indexées sur l'inflation. Avant, elles étaient indexées sur les salaires. Donc, elles augmentaient déjà
87,
moins. Voilà.
Oui.
Et puis là, finalement, ils ne les indexent même pas sur l'inflation. Donc, les gens, de fait, vont perdre du pouvoir d'achat. Mais je dirais que plus grave encore, c'était plutôt le discours associé. C'est-à-dire qu'on dit à ces personnes, vous êtes des privilégiés, finalement vous êtes des inactifs, vous ne servez pas à grand-chose, il faut plutôt qu'on mette l'argent sur les actifs, ceux qui travaillent, ainsi de suite. Et donc on dit à ces personnes qui d'ailleurs, pour la plupart, ont travaillé auparavant, et qui par ailleurs ont eu un rôle majeur dans la société française, ne serait-ce que de soutien à leurs petits-enfants par exemple, mais aussi dans le tissu associatif, mais aussi comme aidants. En fin de compte, on les traite entre guillemets d'inutiles. Mais donc c'est le double discours qui est, je crois, difficile à recevoir.
Mais complètement, et on va analyser ce double discours. Bernard reviendra dans un instant. Lorsqu'il entend, lui, qu'il est un privilégié, Pierre Madec, il sursaute. Comment on peut, avec 1300 euros, être considéré comme privilégié, même si c'est de fait le revenu média en France aujourd'hui, de salaire, Pierre Madec?
Alors, il y a un diagnostic de la part du gouvernement qui était déjà présent dans le programme présidentiel, qui était de dire les retraités sont en moyenne plus riches que toutes les autres catégories de population. Et donc, on va prendre
retraités. Ce qui est vrai statistiquement.
Je vais y revenir juste après. D'accord, ça se discute en réalité. Parce que, et on va redistribuer une partie de la richesse qui est aujourd'hui chez les retraités vers les autres catégories. Et notamment vers les actifs salariés. Ceux qui travaillent, on veut rémunérer le travail. Mmh. Le problème, c'est qu'en réalité, quand on compare le niveau de vie moyen d'un retraité avec un actif salarié qui travaille, en réalité, les actifs salariés qui travaillent sont plutôt plus riches que les retraités. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre à des gens qui sont plus pauvres pour donner à des gens qui sont plus riches. Évidemment, quand on intègre à ça les chômeurs, les autres inactifs, on a un diagnostic qui est différent. Mais là, on redistribue bien de la richesse entre des ménages qui, en moyenne, sont un peu plus pauvres. On redistribue à des ménages qui, en moyenne, sont un peu plus riches. Donc, le diagnostic de départ, il est déjà en partie faussé. Quoi.
Avec Emmanuel Macron, qui a reconnu, notamment sur la CSG, que l'effort, Bernard, demandé était trop important. L'effort sur les retraités les moins aisés, précisément. Il a commencé un mea culpa que vous entendez sur le sujet, Bernard?
Ce que je regrette, c'est que moi, j'ai travaillé 46 ans et demi de ma vie, c'est-à-dire d'octobre 66 à février 2013, avec seulement 10 mois de chômage, et je n'ai jamais fait 35 heures. J'arrive avec une retraite au départ qui me semblait correcte, ça allait me permettre de vivre correctement. Et aujourd'hui, je suis à la veille d'aller déposer plainte contre mes enfants pour qu'ils me payent une pension alimentaire, quoi. On est débile. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus.
Ça veut dire que vous vous êtes mobilisé cette semaine, notamment pour vous associer au cortège des retraités. Vous vous êtes mobilisé peut-être avec les Gilets jaunes également?
Voilà. Moi, je suis Gilet jaune parce qu'en fait, d'accord, je viens pas pour mon cas puisque j'arrive à vivre. Mais je pense que le président n'a pas eu un mot pour les pauvres. Il a parlé des smicards et des retraités, mais il n'a pas parlé des gens qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Ça ne l'intéresse pas.
Alors, on va en parler du seuil de pauvreté, des retraités pauvres. Comment vivent les retraités aujourd'hui avec des statistiques à l'appui? Pierre Madec et Serge Guérin, vous allez pouvoir nous livrer aussi des chiffres, mettre surtout de l'humanité derrière ces chiffres-là. Merci Bernard pour votre appel. N'hésitez pas, comme Bernard, à réagir, à témoigner au 3921 pour nous faire état de votre situation. On va revenir sur la hausse de la CSG, évidemment, au gré de cette émission. Un des péchés originels du gouvernement, manifestement, à l'encontre des retraités. A tout de suite avec Julie.
On fait le tour de la question avec la Banque française mutualiste. Banque française mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Je vous soumets la question Facebook du jour. Selon vous, les retraités sont-ils les grands oubliés d'Emmanuel Macron? Oui, à 76%, avec quelques messages. Michael nous dit les grands oubliés dans cette histoire, ce sont les très riches. On a oublié de les mettre à contribution. Autre message, je me souviens quand j'étais plus jeune, on payait la vignette automobile pour nos retraités. Mmh. Et aujourd'hui, je paye pour les plus jeunes qui bossent. Nous sommes une génération de vaches à lait. C'est signé Serge. Oui, je suis retraité et j'ai travaillé 42 ans pour toucher 827 euros. C'est une honte, nous dit Christine. Et en conclusion, ce message de Jean-Paul. Sans vouloir défendre ou prendre parti, c'est sans doute assez difficile de gouverner en ce moment.
Oui, alors le fait est qu'il y a quasiment autant de schémas de retraite que de retraités, 15 à 17 millions en France. Serge Guérin est sociologue et avec nous en studio. Pierre Madec, chercheur à l'OFCE. Lorsque Christine dit « je suis retraitée, j'ai travaillé 42 ans pour toucher 827 euros », elle fait partie, Serge Guérin, des retraités pauvres selon l'INSEE aujourd'hui?
Oui, d'ailleurs, 827 euros, c'est en dessous du seuil de pauvreté.
Oui.
Donc après 42 ans de travail, vous vous retrouvez, on parle de revaloriser le travail. Mais cette personne a travaillé 42 ans, elle se retrouve avec un revenu en dessous du seuil de pauvreté.
Comment on peut arriver à un revenu si bas après de 42 ans?
Eh bien, sans doute qu'elle a eu une vie professionnelle un peu hachée. Mm-hmm. Sans doute que comme c'était une femme, elle était moins bien payée que les hommes. Sans doute qu'elle avait peu de diplômes, ainsi de suite. Donc, elle n'a pas dû avoir un gros salaire. Peut-être qu'elle a arrêté plusieurs fois pour des enfants ou pour des choses comme ça. Toujours est-il qu'à la fin, on se retrouve avec des retraites. Comme en plus avant, c'était sur les 10 meilleures années. Maintenant, c'est sur les 25 meilleures années. Donc, il se peut que dans les 25 meilleures années, ça ait été toujours des années pas géniales, quoi. Parce que c'est aussi quelque chose qui est très très dur, c'est le syndrome dernier salaire, première pension. C'est que les gens, ils gagnent, et puis à la fin, ils gagnent tant, et puis bing, ils arrivent à la retraite, et ils découvrent que parfois, c'est presque la moitié seulement de ce qu'ils gagnaient auparavant. Oui. Et évidemment, ils ne sont pas préparés à ça, ils se retrouvent donc dans des situations économiques absolument insupportables.
Alors comment économiquement, Pierre Madec, vous avez commencé à dessiner la réponse, les gouvernants et les gouvernements, les uns après les autres, ont pu dire que les retraités étaient une catégorie aisée quand on entend des profils aussi différents que celui de Christine?
Bon, il faut voir qu'on a un système en France qui protège quand même mieux les retraités que les autres catégories de personnes de la pauvreté, notamment. On a un minimum vieillesse qui est aux alentours de 800 euros, qui est supérieur au RSA. Mm-hmm. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas retraité et que vous n'avez pas d'emploi et que vous êtes au minima sociaux, vous allez toucher moins qu'un retraité qui va être au minima sociaux, donc au minimum vieillesse. Donc c'est pour ça qu'on a un taux de pauvreté des retraités qui est inférieur au taux de pauvreté notamment des actifs ou des autres inactifs. Malgré tout, on voit bien que le minimum vieillesse, en effet, à 800 euros ou des pensions à 820, 830, 850 euros sont bien en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il y a quand même des retraités pauvres. Il y a une dynamique aussi qu'il faut observer. C'est l'INSEE a sorti à l'automne un document qui traite des seniors et des retraités et qui montre que la dernière génération de retraités, la génération de 56 qui vient d'arriver là à la retraite, a en moyenne des pensions qui sont inférieures aux pensions de la génération d'avant. Donc on a un groupe qui est les retraités qui s'appauvrit,
oui,
globalement.
Oui.
Ça c'est dû à plein de choses, c'est dû au fait qu'il y a y a beaucoup plus de femmes qui rentrent à la retraite. Bon, voilà, il y a des mécaniques un peu comme ça, mais en tout cas on a une population qui s'appauvrit. Donc une fois de plus, poser le constat de dire vous êtes des privilégiés, le constat est biaisé.
Ça veut dire que la génération dorée des retraités que certains gouvernements ont pointé du doigt, c'est plutôt la génération des baby-boomers, pour faire simple, Serge Guérin?
Et encore, celle-là, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire que ce qui était dit avec force, c'est qu'on compare, on dit oui, les retraités gagnent un peu plus que tous les autres. Mais on compare par exemple avec des gens de 18 à 25 ans qui n'ont pas travaillé. Je trouve assez normal et assez sain que quelqu'un qui a travaillé pendant 42 ans gagne à la fin plus que quelqu'un qui n'a pas encore travaillé. Donc c'est-à-dire qu'on mélange un petit peu tout, quoi. Donc on se retrouve avec des situations de ce type-là. Donc finalement, il n'y a pas eu réellement de génération dorée. Il y a eu des générations qui allaient mieux que d'autres.
Oui, et on a le sentiment, à écouter les politiques sur le sujet, que les retraites sont un cadeau, alors que les retraites sont un dû, quand même. Il y a quelque chose de très paradoxal.
Vous avez parfaitement raison. Je ne comprends même pas, mais alors là, notre économiste va peut-être nous l'expliquer. C'est dans les dépenses sociales.
Ben oui.
C'est dans les 600 milliards de dépenses sociales, il y a 300 milliards de retraites. Mais la retraite, si je peux me permettre, c'est une sorte de salaire différé. J'ai cotisé pendant que je travaillais et ensuite je récupère d'une certaine manière. Alors c'est pas tout à fait ça, mais au final c'est ça. Donc les gens qui sont à la retraite, c'est pas des gens à qui on donne de l'argent comme
bien
ça.
Sûr.
C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie.
Oui.
Et c'est vrai que du coup, on mélange un peu tout. C'est presque, oui, c'est estimez-vous heureux d'avoir une retraite. Mais non, ça fait partie, de l'accord social, je dirais, global. Et deux, ces gens-là l'ont entre guillemets mérité, puisqu'ils ont travaillé. Ils ont cotisé pendant qu'ils travaillaient, et donc leur cotisation allait aux autres retraités. Et donc ensuite, une fois qu'ils sont à la retraite, ils bénéficient d'une certaine manière du fait d'avoir cotisé. C'est comme si ils auraient pu épargner. Eh bien non, on a fait un système plus global, plus normalement équilibré, qui permet en plus d'éviter un petit peu les aléas de la bourse et tout ça. Mmh. Mais donc, c'est pas un don social. C'est bien quelque chose qu'ils ont mérité.
Et on va voir avec vous à quand remonte ce manque de considération pour les retraités en France, Serge Guérin et Pierre Madec, si toutefois on peut marquer comme ça, de manière un peu charnière, un basculement. Comment vivent les retraités aujourd'hui? Pour vous, à 76% sur Facebook, ils restent bien les grands oubliés des réformes d'Emmanuel Macron. Qu'avait-il promis? Compromis les autres avant lui, et que se passe-t-il réellement en France? On vous donne la parole, chers amis, au standard sur les réseaux sociaux également, Julien.
Le 3921 et le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
À tout de suite.
Comment vivent les retraités aujourd'hui? C'est le sujet de l'émission jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités, le sociologue Serge Guérin, qui est spécialiste des questions liées au vieillissement et à la séniorisation de la société, et Pierre Madec, qui est chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, spécialiste des prévisions économiques, du logement et du marché du travail.
Les retraités qui étaient des milliers à manifester encore cette semaine pour leur pouvoir d'achat, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé une annulation de la hausse de la CSG pour les pensions de moins de 2000 euros. Annulation qui aura lieu avec effet rétroactif. C'est-à-dire que les retraités, quand même, les petites retraites, avanceront cette somme qui leur sera rétrocédée, a priori, au mois de juillet. Voilà encore un petit peu un loup dans cette histoire. Serge Guérin et Pierre Madec, est-ce qu'on peut faire un tout petit point un peu technique sur les chiffres pour qu'on sache bien de quoi on parle, Pierre Madec? Aujourd'hui, la retraite moyenne en France est de combien en euros bruts par mois?
La pension moyenne est aux alentours un peu inférieure à 1600 euros, c'est-à-dire à peu près au niveau du revenu médian, mais en sachant que dans le revenu médian, vous allez avoir des étudiants, des chômeurs, voilà, vous allez avoir... c'est extrêmement hétérogène. Et les situations au sein des retraités sont extrêmement hétérogènes aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir à l'intérieur des gens qui sont au minimum vieillesse, qui vont toucher aux alentours de 800, puis vous allez avoir des gens qui ont des pensions de retraite qui sont plus importantes, qui ont des sources de revenus qui sont divers, qui peuvent par exemple bénéficier des loyers perçus, d'un certain nombre de choses, de placements financiers de leur épargne précédente. Et il y a un certain nombre de retraités notamment qui devraient, les plus riches, qui devraient bénéficier de la réforme de la fiscalité du capital avec la fin de l'ISF et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. Oui. Donc au sein même des ménages retraités, vous allez avoir des situations et des impacts des mesures prises par le gouvernement qui vont être très différents. Les ménages les plus pauvres retraités vont plutôt être protégés parce qu'on annonce des revalorisations. Et dans le programme présidentiel, il y avait des revalorisations, notamment du minimum vieillesse. Les ménages les plus riches chez les retraités vont bénéficier de la réforme de la fiscalité du capital.
Oui.
Et au milieu, vous avez tout un tas et la grande majorité des retraités qui, eux, vont perdre massivement, à la fois avec la CSG, mais surtout avec le gel des pensions de retraite, qui est une mesure qui n'était pas annoncée dans le programme présidentiel. Qui a été mis en
place.
Le gel
des pensions de retraite, c'est-à-dire qu'on ne l'adosse plus à la montée de l'inflation?
Ça veut dire qu'au lieu de les indexer de 1,5% en 2019, on les indexe de 0,3%. Ça veut dire que les retraités qui sont touchés par cette mesure, tous les retraités en réalité, devraient perdre 1,3% de pouvoir d'achat dû à cette mesure-là. Certains vont regagner 1,7% dû à la CSG, mais on voit bien que la CSG était annoncée dans le programme présidentiel, les pensions de retraite ne l'étaient pas.
Pour le pouvoir d'achat, justement, Pierre Madec, oui ou non, les retraités sont la seule catégorie de population qui a vu son pouvoir d'achat s'accroître entre 2008 et 2016?
Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, le niveau de vie des retraités a stagné après la crise, quand le niveau de vie des autres catégories de population, du fait de la dégradation du marché du travail notamment, a largement baissé. Donc il y a un décalage qui s'est créé. Après, en fin de période, depuis 2015 à peu près, on a un niveau de vie des actifs qui se rétablit, puisqu'il y a une amélioration du marché du travail, il y a eu des mesures qui ont été prises aussi dans ce sens-là. Et donc si on n'avait rien fait, on aurait observé non seulement une convergence dans les années qui viennent, mais un dépassement du niveau de vie des actifs par rapport aux retraités d'ici 2020-2021. Donc on ne peut pas partir du constat de dire il y a un écart qui s'est creusé,
c'est pour ça que vous nous donniez ces chiffres, parce que quand on entend comme ça dans le discours ambiant que les retraités s'en sortiraient mieux que les autres ces dernières années, c'est à la marge, Serge Guérin. Ce qui est sûr, c'est qu'eux se sentent mal considérés, voire humiliés par des années de politique publique qui... finalement, on fait les met de côté parce que, on a bien les syndicats pour les retraités, mais enfin, ils ne manifestent pas beaucoup, ils ne mobilisent pas beaucoup, c'est un électorat important, mais je veux dire, on peut le manipuler, quoi. C'est ce que se disent les gouvernants, quand même.
C'est-à-dire qu'il y a un regard, enfin, il y a plusieurs choses. Le premier regard, c'est les politiques de droite se disent, de toute façon, les retraités, ça vote à droite, donc il n'y a pas besoin de se fatiguer.
C'est ça.
Les gens de gauche se disent, de toute façon, les retraités, ça vote à droite, donc ce n'est pas la peine de se fatiguer. Ce qui est, dans les deux cas, totalement idiot, parce qu'il y a une diversité chez les gens, évidemment, énorme, et puis il y a d'autres sorts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, bon, finalement, ils ne peuvent pas tellement nous embêter. L'idée, c'est qu'ils ne peuvent pas se mettre en grève. Ils oublient d'ailleurs que si un retraité se mettait en grève, il arrêterait de consommer, il arrêterait d'aller chercher les petits-enfants à l'école. C'est 23 millions d'heures par semaine qui vont des grands-parents vers les petits-enfants pour s'en occuper. Il n'y a pas assez de crèches, il n'y a pas assez de halte-garderie, ainsi de suite, pour le faire. S'ils se mettaient en grève, ils ne seraient plus dans le tissu associatif. Sans les retraités, hormis peut-être les associations de parents d'élèves, pour le reste, dans l'ensemble des associations, s'il n'y avait pas les bénévoles retraités, mais le tissu associatif s'écroule littéralement. Je prends un autre exemple.
C'est fondamental en France.
C'est totalement fondamental. C'est aussi 32% des élus de nos petites communes, des maires en particulier, des toutes petites communes, ce sont des retraités. Ce sont des sortes de fonctionnaires gratuits, parce qu'ils donnent du temps, mais toute la journée, pour essayer de tenir la petite commune. Et puis c'est encore les aidants, les gens qui vont accompagner d'autres personnes qui ont des grands problèmes de santé. Donc en fin de compte, il y a une espèce de regard comme si ça n'existait pas, parce que finalement, ce n'est pas payé. Comme si seules les choses qui étaient payées avaient de l'importance. Or, c'est presque encore plus important. Il y a un rôle social énorme des retraités qui est complètement qui est invisible.
Et complètement. Et vous ajoutez à ça le fait qu'ils ont travaillé 40, 50 ans pour l'essentiel et qu'en plus, on ne les considère plus dans leur nouvelle mission. Aujourd'hui.
C'est ça. On dit qu'il faut revaloriser le travail et on nie le fait que ces gens-là ont travaillé pendant 42 ans. Et pas tous à 35 heures et pas tous dans des conditions
bien
très
sûr.
Très faciles.
Je vais donner la parole à Marie-Claire dans un instant qui nous appelle de Riom au 39-21. Serge Guérin, Pierre Madec dressent les contours de ce sujet avec nous sur le niveau de vie des retraités. Avez-vous manifesté vous aussi cette semaine pour revendiquer une meilleure considération, une augmentation de votre pouvoir d'achat? N'hésitez pas à témoigner également sur Twitter. Avec Julie, on vous attend, chers amis.
Avec le hashtag Europe 1. Les retraités sont-ils vraiment déprivilégiés? Ça peut choquer beaucoup de monde ce que je dis maintenant, mais on va en parler avec Wendy Bouchard et ses invités.
Ah, vous répondez non en tout cas pour l'essentiel. Et lorsqu'on vous demande s'ils sont les grands oubliés d'Emmanuel Macron, vous dites oui à 76%. Serge Guérin, sociologue français spécialiste de ces questions liées au vieillissement, à la séniorisation de la société, est avec nous. Il vient de nous parler du rôle et de l'empreinte fondamentale des seniors, des retraités justement dans l'économie du vrai, l'économie associative, l'économie des familles. Pierre Madec est avec nous, spécialiste des prévisions économiques à l'OFCE. On a un commentaire sur le hashtag Europe 1. On parle vrai, nous dit. On peut philosopher comme on veut. Une retraite non indexée signifie que chaque année, le pouvoir d'achat des retraités baisse. Point final. Une vie de travail pour ça, dit-il. Tous les blablas de l'exécutif n'y changeront rien. Il y a cet effet mécanique, Pierre Madec?
Bah oui, c'est mécanique. C'est d'ailleurs pour ça que ces genres de mesures sont prises. C'est qu'on est sur des masses budgétaires qui sont très importantes. C'est-à-dire le jour où vous décidez de ne pas indexer les pensions de retraite, vous économisez entre 4 et 5 milliards d'euros automatiquement. Donc, quand on est dans un contexte de recherche d'un certain nombre d'économies budgétaires, évidemment, c'est un geste fort. On dit en plus 1,5% de pouvoir d'achat, c'est pas grand-chose. On ne demande pas un effort considérable aux gens. C'est en tout cas ce que disent ceux qui prennent ce type de décision. Et ça permet de dégager des marges de manœuvre considérables. Le vrai problème, c'est qu'on traite tout le monde de la même façon. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'on gèle la petite pension de retraite comme la grande. Et donc c'est une mesure qui est foncièrement injuste parce qu'elle est proportionnelle à... elle n'est pas du tout progressive. Donc de ce point de vue-là, au lieu de revenir sur la CSG, on aurait pu revenir sur le gel des pensions et notamment dire on réindexe les petites pensions de retraite et non pas on fait des bricolages avec la CSG, parce que là maintenant on se retrouve quand même avec 5 taux de CSG différents pour les retraités, ce qui commence à devenir un petit peu compliqué. Et en plus, ce qui potentiellement peut être anticonstitutionnel parce que la CSG n'est pas faite pour être un impôt progressif.
Alors nous aurons dans un instant Pascal, Josiane et Marie-Claire qui veulent réagir. Pascal d'Avignon, j'ai une retraite convenable, je dois cependant aider mes enfants qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est pour la jeunesse que je suis inquiète, notamment mes petits-enfants en formation. Je suis obligée d'aider financièrement pour leurs études. C'est très injuste quand même que les retraités soient taxés. Voilà ce que nous dit Pascal d'Avignon, Serge Guérin.
Je crois qu'il y a quelque chose de très fort derrière. Il y a des gens qui disaient « je donnais 30 euros à mes petits-enfants ». Je ne peux plus les donner. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance aussi personnelle de se dire c'était ma manière à moi de les aider. Je ne peux pas les aider dans leurs études, je ne comprends pas nécessairement ce qu'ils font, ainsi de suite, mais au moins je pouvais les aider de cette manière-là. On peut dire 30 euros, c'est rien. N'empêche que dans la symbolique, au moins je pouvais faire quelque chose. Dès lors qu'on m'enlève les 30 euros, je fais comment? Et il y a des gens qui sont en train de moins se nourrir pour continuer de pouvoir donner ces 30 euros parce qu'ils ont le sentiment que c'est leur manière à eux d'être solidaires avec les petits enfants.
Ils se sont saignés toute leur vie.
C'est ça aussi la symbolique très forte. Et puis c'est aussi l'élément de se dire, tant que je peux, tant que je suis à peu près sûr de moi, c'est aussi plus facile pour moi pour aider mes petits-enfants, parfois pour aider directement mes enfants ou pour être justement bénévole. Si vous n'avez pas d'argent, ne serait-ce que pour payer l'essence, pour aller chercher par exemple d'autres personnes qui sont âgées, ainsi de suite, vous faites comment? Donc c'est aussi quelque chose d'extrêmement violent de se disant, je ne peux même plus avoir le sentiment d'être utile aux autres,
ça,
y compris à mes propres enfants ou petits-enfants.
Voilà pourquoi dans ces familles de retraités qu'on essaye de dresser aussi au cours de cette émission, Serge Guérin et Pierre Madec, il y a aussi les retraités qui travaillent. Ça, c'est une tendance de fond qui se développe. En 2017, plus de 6 seniors sur 10 travaillaient. C'est une proportion qui a fortement augmenté ces 10 dernières années. Ils n'ont pas le choix, ou alors 65 ans, c'est trop jeune, et ils ont envie de montrer qu'ils sont encore là, que leur expertise est à niveau. Serge et Pierre. Serge Guérin.
En effet, la proportion de seniors qui cumulent emploi et retraite a fortement augmenté. Alors, avant d'être à la retraite, on travaille à temps plein. Les réformes des retraites ont fait que la durée d'activité a plutôt été prolongée. Mais cette statistique qui dit on cumule emploi et retraite est intéressante et montre bien que les pensions pour un certain nombre de retraités suffisent pas à subvenir aux besoins. Mmh. Et la question des besoins et du reste à vivre, elle est centrale. C'est-à-dire que quand on observe un peu le mouvement des Gilets jaunes, il est en effet sur les salaires, il est sur les taxes, il est sur les impôts, mais il est plus globalement sur le reste à vivre. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous reste une fois déduit toutes les charges forcées, qu'est-ce qui nous reste pour vivre ? Et de ce point de vue-là, la situation des retraités est une fois de plus très hétérogène. On a tendance à croire que tous les retraités sont propriétaires, ont fini de rembourser leur emprunt et donc sont...
Sur 15 millions de retraités, il y a combien de propriétaires ? Est-ce qu'on sait à peu
Alors,
près ça ?
C'est compliqué parce qu'il faut regarder la composition du ménage. Oui. Il y a une proportion de propriétaires qui est très importante et plus importante que dans la population. Mais il y a aussi un certain nombre de locataires du parc social ou de locataires du parc privé, qui donc tous les mois doivent dépenser un loyer comme tout le monde. Et donc on ne peut pas considérer qu'ils seraient privilégiés parce que leur reste à vivre global est supérieur.
Bien
il y a
sûr.
Des situations Mais... où les charges augmentent, où en effet il faut se déplacer. C'est des ménages qui souvent sont plus éloignés des centres-villes aussi. Donc il faut prendre en compte toutes ces dépenses contraintes et pas avoir un constat comme ça uniquement sur notamment les pensions de retraite.
Mais j'imagine qu'il y a plus de propriétaires chez les retraités que chez les
actifs. Oui, globalement c'est à peu près 75%.
C'est ça,
sauf que tous les retraités n'ont pas, je dirais, un 100 mètres carrés au centre de Nantes ou de Paris. C'est-à-dire que c'est aussi des gens qui ont parfois un petit pavillon qui est en plus qui est ce qu'on appelle une passoire énergétique, c'est-à-dire qui a été fait dans les années 60 par exemple, qui est donc pas du tout économiquement qui est
parfois
presque
alimenté
pas
au fuel,
voilà.
Justement.
Oui, c'est ça, ça coûte hyper cher et tout. C'est parfois pas très confortable. Et quand ils veulent le réparer eux-mêmes, ils arrivent à un âge où ils n'arrivent pas. Donc ça... Et quand ils essayent de le vendre, souvent, ils ne trouvent pas acquéreur ou à des prix qui ne sont pas du tout ceux auxquels ils s'attendaient. Donc parfois, ça les enferme au contraire dans une situation qui est encore plus difficile que s'ils étaient locataires.
Alors peut-être comme Marie-Claire, que nous n'arrivons pas à joindre, mais elle nous a appelé et laissé un petit message. Elle a 66 ans, elle vit avec 900 euros par mois après loyer, après assurance, après téléphone. Elle dit de faire que 2 repas par jour, qu'elle ne peut pas se soigner convenablement et qu'elle a l'impression, oui, d'être oubliée par le gouvernement. On n'a que des femmes qui nous appellent au standard, c'est étonnant ce matin. Je vais donner la parole à Paulette et à Josiane dans un instant. N'hésitez pas à réagir sur la manière dont vous vivez aujourd'hui, chers amis, si vous êtes retraités. Vous avez forcément aussi un regard comme actif sur les retraités. Comment vivent-ils aujourd'hui ? On fait le tour de la question jusqu'à 10h.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Comment vivent les retraités aujourd'hui ? On reprend notre débat avec Wendy Bouchard et ses invités jusqu'à 10h sur Europe 1.
Mes invités, Serge Guérin, sociologue français spécialiste des questions liées au vieillissement et à la séniorisation de la société, comme on dit. Pierre Madec est chercheur à l'OFCE, spécialiste des prévisions économiques et du marché du travail. La parole va être donnée dans un petit instant à vous, mesdames. Michel Paulette au 39-21. Je voudrais juste vous lire, messieurs, cette petite réflexion sur Twitter de Manoli. Non seulement les retraités sont les oubliés du gouvernement, mais ils sont aussi les oubliés tout court, car passé la cinquantaine, on n'est plus rien. On ne fait même plus partie des sondages, puisque la personne responsable des achats a moins de 50 ans, Serge Guérin. Ça a un petit peu évolué quand même ?
Oui, ça a heureusement un petit peu évolué, mais c'est vrai que la notion elle a été inventée en 1953. C'est la ménagère de moins de 50 ans.
Oui.
Alors, parce qu'on considérait à l'époque que madame ne travaillait pas officiellement, et c'était elle qui allait chercher à manger pour tout le monde, qui allait acheter. Il y avait à peu près 3 enfants. Du coup, c'était elle qu'il fallait toucher. Et après 50 ans, les enfants sont partis, de toute façon, elle ne pourra plus faire d'enfants, donc tout ça n'a plus d'intérêt. Donc, ça a un petit peu évolué, mais finalement, pas tant que ça. Et par exemple, dans les entreprises, dès 45 ans, on est considéré comme un senior, et quelqu'un qui perd son emploi autour de 50 ans a quasiment aucune chance d'en retrouver. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des situations extrêmement difficiles. Donc, c'est vrai qu'il y a une violence institutionnelle, je dirais, dès 50 ans, où ça commence à devenir très compliqué.
Alors que le senior à l'américaine, c'est justement celui qui est capable de faire foi à son expertise, son expérience. C'est presque une marque c'est presque un label de qualité, j'allais dire, senior.
Mais c'est marrant que vous disiez ça, parce que c'est exactement ça. Ou bien on est dans une notion où on respecte l'ancien monde, on se dit il y a besoin d'expérience, ou bien on est dans le nouveau monde, un petit peu comme le discours de certains aujourd'hui, et du coup, ce qui est ancien n'intéresse pas. Ça n'a pas de valeur. Comme si tout recommençait à zéro. Donc évidemment, dans ce cas-là, les plus anciens, par exemple dans une entreprise, on ne va pas s'en préoccuper. Alors qu'on s'aperçoit, toutes les études économiques le montrent, la productivité, elle ne baisse pas avec l'âge. Et c'est plutôt quand il y a un mélange d'âge que la productivité est la plus forte. Parce que les plus neufs, on va dire, les plus récents, les plus jeunes, ont un certain nombre de connaissances. Oui. Et les plus anciens ont un certain nombre d'expériences. Et c'est le mélange des deux qui permet de construire un projet.
Et alors comment expliquer l'inadéquation de l'homme du nouveau monde, la quarantaine, Emmanuel Macron, avec la réalité de terrain, lui qui appelait il y a un an et demi, et c'était le début de ces problèmes à la contribution de chacun. Pour les retraités, il demandait, je cite, un petit effort pour relancer l'économie et pour aider les actifs, ainsi que de la patience. On ne vous a pas pompé, répondait-il à une dame qui l'interpellait. On baisse de 30% les cotisations salariales pour que les gens qui travaillent puissent payer vos retraites. C'était dit avec pas mal de condescendance, mais le petit effort pour relancer l'économie, bah, ça a du mal à passer, Pierre Madec.
Alors, on a demandé en effet un petit effort, 1,7% aux retraités. Puis après, on a demandé un gros effort. Enfin, on s'apprêtait à demander un gros effort en 2019 avec, une fois de plus, le quasi-gel des pensions. Donc, ce n'est pas juste on vous demande un petit effort une fois, c'est on vous demande un petit effort sur tout le quinquennat.
Oui.
Et l'année d'après, c'est on ça. En remet une couche. On vous redemande un certain nombre de choses avec des transferts qui sont massifs. Hein. On parle de... C'est-à-dire qu'on la bascule, ce qu'on appelle la bascule cotisation CSG, c'est des transferts qu'on n'a quasiment jamais vus, supérieurs à 20 milliards d'euros, pour des gains ou des pertes. Il y a beaucoup de redistribution, mais des gains ou des pertes qui sont au final très faibles. En plus, la baisse des cotisations, elle a eu lieu en deux fois et pas en une fois.
Oui.
Donc c'est-à-dire que les retraités, dès le 1er janvier 2018, ont vu leur retraite baisser de 1,7%. Par contre, si vous avez, j'en sais rien moi, des actifs dans votre famille, vos enfants ou vos petits-enfants, ils n'ont pas vu leur salaire augmenter de 1,7% au 1er janvier. Ils ont dû attendre l'automne pour avoir le fruit de cette redistribution. Donc, on voit bien que le sentiment d'injustice, il est réel. Est-ce qu'il va être atténué par cette mesure de CSG ? C'est possible, mais il faut quand même rappeler qu'une fois de plus, tout le monde va être concerné par le gel des pensions. Et 30% va continuer à être concerné par... Donc un tiers des retraités vont continuer à être concernés par la CSG. Dans ce tiers de retraités, c'est en effet des retraités aisés, mais ce n'est pas que des retraités
aisés. Quand on dit aisés, c'est 2000 euros brut de retraite par mois. C'est pas
oui,
non plus,
voilà. Mais donc du coup, ouais. on est quand même sur... En plus, il y a cet effet de seuil où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc c'est normal qu'il y ait une incompréhension et une inquiétude de la part des retraités.
Nous sommes messieurs avec Paulette qui nous appelle de Rouen. Bonjour madame.
Oui, bonjour à votre équipe. Je vous remercie de me prendre parce que je suis un petit peu révoltée aussi en ce moment.
Je comprends.
En plus, c'est les fêtes et tout ça. Moi, j'ai eu 4 enfants, j'ai travaillé dans l'animation, j'ai élevé donc pas mal d'enfants aussi. Alors, je n'ai pas travaillé, bien sûr, à temps complet. Il y a juste les 10 dernières années que j'ai travaillé. Là, j'aurais eu une bonne retraite.
Oui.
Mais là, bon, bah, j'ai que 718,91 plus 134 de retraite complémentaire, donc ça me fait 853.
Ah, donc 850 euros de retraite par mois, oui, avec ça. Oui.
Et en plus, ben, je suis dans une résidence, j'ai pas voulu m'en aller, et voilà, maintenant ça me fait 500 euros par mois. Donc c'est très très difficile. Je voudrais aider un peu plus mes enfants, tout ça, puis pour Noël et tout, ça révolte un peu quoi. Alors on n'a pas d'augmentation. J'ai eu une petite augmentation il n'y a pas longtemps sur la retraite complémentaire de 80 centimes. Bon ben j'estime que c'est vraiment pas grand chose.
Oui, oui.
Et on se hein. Bon, moi, c'est vrai que je suis un peu révoltée, quoi.
Bah, je vous comprends, Paulette. Vous avez le sentiment aussi d'avoir donné beaucoup et qu'on ne vous rétribue pas en conséquence. Serge Guérin, voilà, Paulette, avec une petite retraite de 850 euros par mois, qui à peine, parce que c'est les fêtes, bon, vous n'avez pas à culpabiliser, madame, évidemment. Votre famille comprend et on connaît tous ces cas-là, mais c'est terrible, quoi. C'est très injuste, au fond.
Oui, c'est ça. Après toute une vie de travail, et Paulette, elle commence par dire « je voudrais aider mes petits-enfants ». C'est-à-dire qu'elle pense même pas à elle, elle pense à sa famille, quoi. Elle pense aux autres. Donc quand on dit « les gens sont égoïstes », là, on a bien une preuve que c'est vraiment pas le cas. Mais c'est aussi cette violence-là, ne pas, même pas pouvoir un tout petit peu aider ou faire plaisir à mes proches. Et puis, en effet, elle nous dit ses dépenses contraintes, elle veut rester dans la même résidence, c'est-à-dire qu'elle veut aussi garder les liens sociaux qu'elle a. Parce qu'on pourrait lui dire, à l'image du président de la République, elle a qu'à traverser la rue. Mais se retrouver avec d'autres gens qu'elle ne connaît pas. Là, les gens de cette résidence, c'est aussi les gens qu'elle connaît, sur lesquels elle peut peut-être s'appuyer, sur lesquels elle est en confiance. Donc c'est aussi ça, cette difficulté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un phénomène qui n'existait pas il y a 15 ans. C'est des gens qui, arrivés à la retraite, n'ont pas d'autre choix qu'essayer de trouver un logement dans le monde HLM. Parce que c'est trop cher pour eux quand ils sont en loyer.
Donc ils font une demande de logement social.
Et donc
ils font
une demande de logement social. Donc vous avez un nouveau parcours de gens à un âge où on ne s'attendait pas nécessairement qui demandent d'aller en HLM, qui est après la retraite.
Oui, évidemment, Paulette qui a 300 euros pour vivre, qui lui reste à la fin du mois. On va donner la parole dans un instant à Michel. Je vous cite juste Jean qui nous écrit d'Anthony. Je trouve, moi, normal que les retraités payent la CSG au même niveau que les actifs, car ils sont plus souvent malades. En revanche, il faudrait différencier les différentes retraites, notamment celle de la fonction publique. Il n'est pas normal que nous payions pour celle-ci. Vous allez réagir dans un instant, messieurs Pierre Madec de l'OFCE et Serge Guérin en qualité de sociologue. À tout de suite sur Europe 1 avec Julie.
Selon vous, les retraités sont-ils les grands oubliés de ce quinquennat? On vous donne la parole au 39-21 et avec le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
Encore quelques minutes ensemble, vous répondez oui à 76%. Emmanuel Macron qui ne considère pas ses retraités. Retraite moyenne en France est de 1600 euros brut, mais avec des catégories très différentes, des cas bien différents en son sein. C'est très hétérogène. Paulette nous rappelait qu'elle le vit avec 800 euros par mois et que défalquer ses charges, il lui restait 300 euros à vivre, c'est-à-dire, oui, Serge Guérin, 10 euros par jour. Quand on en arrive là, on est en droit de se demander si la France considère ses retraités, ceux qui ont travaillé 40, 50 ans de leur vie, pour le bien public aussi.
C'est ça, c'est du consensus national, c'est de la cohésion nationale, c'est de la solidarité. Quelqu'un qui est jeune et qui a 25 ans, il va se dire « mais c'est dingue, je peux travailler toute ma vie et à la fin de ma vie, je serai traité comme ça ». C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'opposition. J'avais fait un bouquin dans le temps sur la non-guerre des générations. Et c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Les jeunes ne trouvent pas ça normal qu'on augmente la CSG ou qu'on baisse les retraites. Les jeunes, ils ne trouvent pas normal que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie vive avec 10 euros par jour. Donc c'est y compris parce qu'ils se disent ça pourrait être ma propre grand-mère ou ça pourrait être moi dans 40 ans. C'est-à-dire que on donne aussi une perspective, on donne un non-futur à la société française en lui disant c'est comme ça qu'on traite un certain nombre de personnes retraitées.
Nous avons Michel avec nous au 39-21. Bonjour Michel.
Oui, bonjour madame.
Merci de nous rejoindre et de nous écouter. Alors j'ai l'impression que vous avez un discours un petit peu détonnant dans tout ce que vous avez entendu.
Un petit peu détonnant, oui, parce que je crois quand même qu'on assiste à une victimisation des retraités qui est quand même un petit peu lourde.
Vous êtes vous-même retraité, Michel ?
Je suis retraitée. Mais bon, je suis une privilégiée, je ne le nie pas. Mais par contre, ce que je trouve très pernicieux de la part de vos invités et de votre sociologue, c'est de la façon dont il a expliqué la retraite par répartition. Parce que quand la retraite par répartition, ce sont les actifs qui paient les retraites des gens qui sont à l'âge d'être justement à la retraite.
Oui.
Seulement, personne ne peut vous... Ça dépend aussi des aléas économiques. Moi, quand j'ai cotisé, je n'étais pas persuadée d'avoir une retraite égale à celle qu'avaient mes parents. Parce que selon les aléas économiques, évidemment, si vous avez moins d'actifs, si vous avez du chômage, il est normal que les retraites baissent.
Si vous avez moins de cotisants, évidemment, c'est mathématique, Pierre Madec. Mais je trouve que la réflexion de Serge Guérin pour vous défendre n'était pas engagée sur le système. Mais répondez-nous, Pierre Madec, de l'OFCE, s'il vous plaît.
Ce qui est important de rappeler, c'est qu'on a un système de solidarité. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des actifs qui travaillent, qui payent pour les gens qui sont à la retraite. Quand vous avez un problème budgétaire qui fait que vous n'avez pas assez d'actifs par rapport aux gens qui sont à la retraite, en effet, vous ne pouvez plus payer les retraites. Mais là se pose une question, c'est-à-dire que soit vous dites aux retraités, on va baisser vos retraites.
Soit on change de système.
Soit on dit aux actifs, vous allez payer plus, on va vous mettre plus à contribution pour maintenir des niveaux de retraite convenables. Le seul choix n'est pas dans, on dit aux retraités que vous allez toucher moins de retraites parce qu'il y a moins d'actifs qui cotisent. On pourrait très bien dire, les actifs, c'est un système de solidarité. Il faut être solidaire vis-à-vis de nos personnes âgées, de nos seniors qui, eux, ont été solidaires de la génération encore d'avant. Et donc, on augmente les cotisations pour équilibrer le système. Le seul choix ne réside pas dans la baisse des retraites.
Vers quoi s'achemine la réforme des retraites menée avec un certain nombre de débats citoyens en France et supervisée par Jean-Paul Delevoye, Serge Guérin ?
Déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que Jean-Paul Delevoye, lui, a travaillé avec l'ensemble des corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'il fait tout un travail de recherche de consensus, de réflexion, ce qui est déjà en termes de démarche de politique publique plus intéressant. Le deuxième élément, c'est de rappeler qu'on a déjà toutes les différentes réformes de retraite ont à peu près ponctionné 60 milliards d'euros sur les retraités. Oui. Donc déjà, ça a commencé depuis un bon moment. Oui. Là, l'idée, enfin, en fin de compte, il y a deux idées majeures. C'est une idée de système par points. Je cotise et ce qui me permettra C'est un système suédois. Et d'ailleurs, les Suédois, quand les retraites, quand il y a besoin d'équilibrer les retraites, ben, on baisse le point de cotisation. Donc, en effet, les retraites peuvent évoluer. Et la deuxième chose de cette réforme, c'est l'idée de, il n'y aura qu'un seul régime et pas les 42 régimes, dans l'idée que chacun se sente à égalité avec les autres, puisqu'il y a un très fort sentiment d'inégalité. Je dis bien un sentiment parce qu'après, ça se discute beaucoup. Mais en tout cas, c'est l'idée que tout le monde aura une vision très claire de sa retraite. Après, ça ne change pas la question, le nombre de personnes qui cotisent par rapport au nombre de personnes qui bénéficient de ces cotisations.
Un petit mot de la fin avec vous, Armel. Je voulais vous donner la parole. Vous nous appelez de Sarrebourg au 3921. Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous êtes retraitée, vous avez 78 ans, madame. Je me permets de donner votre âge. Voilà, vous vouliez réagir à ce sujet aujourd'hui, comment vivent les retraités? Vous vous considérez comme une retraitée privilégiée ou comme une retraitée, justement, oubliée et pressurée?
Non, je me considère aussi comme une retraitée plutôt privilégiée et je suis d'accord avec l'auditrice précédente. Je ne suis pas d'accord pour cette victimisation des retraités. D'abord parce que, première chose, je voudrais quand même insister sur le fait que la retraite, c'est également, je dirais, un fruit du travail. Il n'y a pas de retraite sans travailleurs.
Mais oui, vous n'allez pas voler, pardon.
Alors, il y a des retraites qui sont minuscules, c'est vrai, mais le système est tel, j'ai fait remarquer qu'on calculait les retraites sur les 17 années, meilleures années de travail, puis c'est passé à 25 années. Merci, monsieur Balladur. Alors que, par exemple, les fonctionnaires, eux, c'est les 6 derniers mois. Il est bien évident que si on nous calcule une retraite sur 25 années, on va remonter à des années de travail de débutants, et mathématiquement, ça fait baisser la retraite. Maintenant, le problème, l'inégalité des retraites, elle correspond aussi à l'inégalité des salaires et des situations. Et contre ça, il n'y aura pas grand-chose, peut-être malheureusement, à faire. Mais ce qui n'est pas normal, effectivement, c'est que le fruit du travail ne permette pas de vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de taxes, il y a trop de frais. Je dis souvent que quand on a payé le loyer, l'électricité, enfin, tout ce qu'on doit payer dans une maison... Ben, finalement, c'est pas la nourriture qui coûte le plus cher. Et c'est ça qui est grave. C'est tout ce qu'on nous prend.
Merci, Armel.
Taxe de ci, taxe de là. Et ça, c'est pas normal.
Voilà, pourquoi
nous. On pourra toujours augmenter les retraites tant qu'on voudra. On n'arrivera jamais à quelque chose de correct dans ces conditions.
Par ailleurs, merci Armel, voilà, pour ce mot de la fin sur ce contour avec cette réflexion sur le pouvoir d'achat plus global. Ça fait un mois qu'on en entend beaucoup parler, mais les exemples sont à l'appui. Pierre Madec, Serge Guérin, 10 secondes pour conclure là-dessus.
Non, peut-être juste dire un mot. Là, on a eu comme... au téléphone des gens qui sont à la retraite et qui sont chez eux apparemment, dans des situations diverses, mais qui sont chez eux. Il faut quand même mentionner le fait qu'il y a un certain nombre de retraités les plus âgés qui sont ou qui vont arriver en situation de dépendance.
Oui.
Et ces situations-là
avec
vont,
des maisons de retraite qui
voilà,
coûtent une
vont
fortune.
Être de plus en plus nombreuses. Et donc la question de la dépendance et du service public de la dépendance, c'est une question dont on n'a pas eu le temps de parler là, mais qui est centrale, parce que typiquement les personnes à 800 ou 850 euros de pension, comment elles vont faire une fois qu'elles seront dépendantes pour se loger et subvenir à leurs besoins, c'est une question centrale.
Absolument, et on y reviendra avec vous si vous voulez bien. Serge Guérin, c'est aussi une question au cœur de vos préoccupations.
Absolument, et puis comme par hasard, je dirais, on a eu beaucoup de femmes qui ont appelé. Il faut aussi rappeler que les retraites des femmes sont beaucoup plus faibles que celles des hommes et qu'elles ont encore plus d'inquiétude face à l'avenir. Parce que c'est vrai que face à l'avenir, il y a l'inquiétude de sa propre santé. Et le deuxième élément, c'est comment je vais financer si en effet, face à la perte d'autonomie, je serai accueilli en maison de retraite ou dans des éléments comme ça. Et donc, il y a un lien entre les deux. Il y a une réforme, normalement, qui doit se faire sur ce sujet. Je ne sais pas où elle en sera. Mais en tout cas, il y a un lien entre tout cela.
Merci beaucoup. Et on fera une émission sur le sujet. Ça s'annonce aussi passionnant. Merci d'avoir donné beaucoup d'humanité aussi à ces caractères parfois un peu techniques. Serge Guérin, Pierre Madec, à tout de suite pour parler de l'histoire de France. Napoléon Ier, Napoléon III. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.